Histoire d'un crime par Victor Hugo. Quatrième journée. La victoire. 4-1. Les faits de la nuit. La rue Tiquetonne. Comme Mathieu de la Drôme venait de nous dire cette parole, « Vous êtes chez le roi Bomba », Charles Gambon entra. Il se laissa tomber sur une chaise et murmura, « C'est horrible ». Bancel le suivait. « Nous en venons, » dit Bancel. Gambon avait pu s'abriter dans l'embrasure d'une porte. Rien que devant Barbedienne, il avait compté 37 cadavres. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Dans quel but ce monstrueux meurtre, au hasard? On ne comprenait pas. C'était une énigme dans un massacre. Nous étions dans l'antre du Sphinx. La brousse survint. Il était urgent de quitter la maison de Dupont-White. Elle était sur le point d'être cernée. Depuis quelques instants, la rue Montabaur, ordinairement déserte, se peuplait de figures suspectes. Des hommes attentifs semblaient observer le numéro 11. Quelques-uns de ces hommes, qui avaient l'air de se concerter, appartenaient à l'ancien club des clubs, lequel, grâce aux manœuvres de la réaction, avait une vague odeur de police. Il était nécessaire de se disperser. La brousse nous dit « Je viens de voir rôder Longepied ». Nous nous séparâmes. On s'en alla isolément et chacun de son côté. On ne savait pas où l'on se reverrait, ni si l'on se reverrait. Qu'allait-il arriver? Qu'allait-on devenir? On ne savait. On respirait de l'épouvante. Je montai vers les boulevards, voulant voir ce qui se passait. Ce qui se passait, je viens de le dire. Bancel et Versigny m'avaient rejoint. Comme je quittais le boulevard, mêlé à un tourbillon de foule terrifiée, ne sachant où j'allais, redescendant vers le centre de Paris, une voix me dit brusquement à l'oreille « Il y a là une chose qu'il faut que vous voyez. » Je reconnus cette voix. C'était la voix de E.P. Note. Édouard Plouvier. Fin de note. E.P. est un auteur dramatique, homme de talent, que, sous Louis-Philippe, j'ai fait exempter du service militaire. Je ne l'avais pas rencontré depuis 4 ou 5 ans. Je le retrouvais dans ce tumulte. Il me parlait comme si nous nous étions vus hier. Tels sont ces effarements-là. On n'a pas le temps de se reconnaître dans les règles. On se parle comme si tout était en fuite. « Ah, c'est vous ? » lui dis-je. « Que me voulez-vous ? » Il me répondit. « J'habite une maison qui est là. » Et il ajouta. « Venez. » Il m'entraîna dans une rue obscure. On entendait des détonations. Au fond de la rue, on voyait une ruine de barricade. Versigny et Bancel, je viens de le dire, étaient avec moi. E.P. se tourna vers eux. « Ces messieurs peuvent venir, » dit-il. Je lui demandai, « Quelle est cette rue ?»« La rue Tiquetonne, venez. » Nous le suivîmes. J'ai raconté ailleurs, note les châtiments, cette chose tragique. E.P. s'arrêta devant une maison haute et noire. Il poussa une porte d'allée qui n'était pas fermée. Puis une autre porte. Et nous entrâmes dans une salle basse, toute paisible, éclairée d'une lampe. Cette chambre semblait attenante à une boutique. Au fond, on entrevoyait 2 lits, côte à côte, un grand et un petit. Il y avait au-dessus du petit lit un portrait de femme, et au-dessus du portrait un rameau de buis béni. La lampe était posée sur une cheminée où brûlait un petit feu. Près de la lampe, sur une chaise, il y avait une vieille femme, penchée, courbée, pliée en deux, comme cassée, sur une chose qui était dans l'ombre et qu'elle avait dans les bras. Je m'approchai. Ce qu'elle avait dans les bras, c'était un enfant, mort. La pauvre femme sanglotait silencieusement. E.P., qui était de la maison, lui toucha l'épaule et dit « Laissez voir ». La vieille femme leva la tête et je vis sur ses genoux un petit garçon pâle, à demi déshabillé, joli, avec 2 trous rouges au front. La vieille femme me regarda, mais évidemment, elle ne me voyait pas. Elle murmura, se parlant à elle-même, « Et dire qu'il m'appelait bonne maman ce matin. » E.P. prit la main de l'enfant. Cette main retomba. « 7 ans, » me dit-il. Une cuvette était à terre. On avait lavé le visage de l'enfant. 2 filets de sang sortaient des 2 trous. Au fond de la chambre, près d'une armoire entr'ouverte, où l'on apercevait du linge, se tenait debout une femme d'une quarantaine d'années, grave, pauvre, propre, assez belle, une voisine, me dit E.P. Il m'expliqua qu'il y avait un médecin dans la maison, que ce médecin était descendu et avait dit « rien à faire ». L'enfant avait été frappé de 2 balles à la tête, en traversant la rue pour se sauver. On l'avait rapporté à sa grand-mère, qui n'avait que lui. Le portrait de la mère morte était au-dessus du petit lit. L'enfant avait les yeux à demi ouverts, et cet inexprimable regard des morts, où la perception du réel est remplacée par la vision de l'infini. L'aïeul, à travers ses sanglots, parlait par instants. « Si c'est Dieu possible, a-t-on idée? Des brigands, quoi ?» Elle s'écria, « C'est donc ça, le gouvernement ?»« Oui, lui dis-je. » Nous achevâmes de déshabiller l'enfant. Il avait une toupie dans sa poche. Sa tête allait et venait, d'une épaule à l'autre. Je la soutins, et je le baisai au front. Versigny et Bancel lui ôtèrent ses bas. La grand-mère eut tout à coup un mouvement. « Ne lui faites pas de mal, » dit-elle. Elle prit les 2 pieds glacés et blancs dans ses vieilles mains, tâchant de les réchauffer. Quand le pauvre petit corps fut nu, on songea à l'ensevelir. On tira de l'armoire un drap. Alors l'aïeul éclata en pleurs terribles. Elle cria, « Je veux qu'on me le rende !» Elle se redressa et nous regarda, et elle se mit à dire des choses farouches, où Bonaparte était mêlé, et Dieu, et son petit, et l'école où il allait, et sa fille qu'elle avait perdue, et nous adressant à nous-mêmes des reproches, livides, hagardes, ayant comme un songe dans les yeux, et plus fantôme que l'enfant mort. Puis elle reprit sa tête dans ses mains, posa ses bras croisés sur son enfant, et se remit à sangloter. La femme qui était là vint à moi, et, sans dire une parole, m'essuya la bouche avec un mouchoir. J'avais du sang aux lèvres. Que faire, hélas ? Nous sortîmes, accablés. Il était tout à fait nuit. Bancel et Versigny me quittèrent. 4.2. Les faits de la nuit, quartier des Halles. Je revins à mon gîte, rue Richelieu, numéro 19. Le massacre semblait fini. On n'entendait plus de fusillade. Comme j'allais frapper à la porte du numéro 19, j'eus un moment d'hésitation. Un homme était là, qui semblait attendre. Je marchai droit à cet homme et je lui dis, « Vous semblez attendre quelqu'un. » Il répondit, « Oui. » « Qui ?»« Vous. » Et il ajouta, en baissant la voix, « Je viens pour vous parler. » Je regardai cet homme. Un réverbère l'éclairait, il n'en évitait pas la lumière. C'était un jeune homme à barbe blonde, en blouse bleue, qui avait l'air doux d'un penseur et les mains robustes d'un ouvrier. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. Il répondit, « Je suis de l'association des Formiers. Je vous connais bien, citoyen Victor Hugo. »« De quelle part venez-vous » repris-je. Il répondit, toujours à voix basse, « De la part du citoyen King. »« C'est bien, » lui dis-je. Il me donna alors son nom. Comme il a survécu aux événements de cette nuit du 4 et qu'il a échappé depuis aux dénonciations, on comprendra que nous ne le nommions point ici, et que nous nous bornions à le désigner dans la suite de ce récit par sa profession et à l'appeler le formier. Note. On peut aujourd'hui, après 26 ans, nommer ce loyal et courageux homme. Il s'appelait Gallois, G-A-L-O-Y, et non Gallois, G-A-2-L-O-I-X, comme l'ont imprimé, en racontant, à leur façon, les incidents qu'on va lire, certains historiographes du coup d'État. Fin de note. Qu'avez-vous à me dire ? Lui demandai-je. Il m'expliqua que rien n'était désespéré, que lui et ses amis entendaient continuer la résistance, que les lieux de rendez-vous des associations n'étaient pas encore déterminés, mais qu'ils le seraient dans la soirée, que ma présence était désirée, et que si je voulais me trouver à 9 heures, sous l'arcade Colbert, lui ou un autre des leurs y serait et me conduirait. Nous convînmes que pour se faire reconnaître en m'abordant, on me dirait le mot d'ordre que fait Joseph. Je ne sais s'il crut voir en moi quelque doute ou quelque défiance. Il s'interrompit tout à coup et me dit, « Au fait, vous n'êtes pas forcé de me croire. on ne pense pas à tout. J'aurais dû me faire donner un mot d'écrit. Dans un moment comme celui-ci, on se défie de tout le monde. Au contraire, lui dis-je, on se confie à tout le monde. Je serai à 9 heures à l'arcade Colbert. » Et je le quittai. Je rentrai dans mon asile. J'étais là. J'avais faim. J'eus recours au chocolat de Charamol et à un peu de pain qui me restait. Je me laissai tomber sur un fauteuil, je mangeai et je dormis. Il y a des sommeils noirs. J'eus un de ces sommeils-là, plein de spectres. Je revis l'enfant mort et les 2 trous rouges du front, qui étaient 2 bouches. L'une disait « Morny » et l'autre « Saint-Arnaud ». Mais on ne fait pas l'histoire pour raconter des songes. J'abrège. Brusquement, je me réveillai. J'eus comme une secousse. Pourvu qu'il ne soit pas plus de 9 heures. J'avais oublié de monter ma montre. Elle était arrêtée. Je sortis en toute hâte. La rue était déserte. Les boutiques étaient fermées. Place Louvois, j'entendis l'heure sonner, probablement à Saint-Roch. J'écoutai. Je comptais 9 coups. En 2 pas, je fus à l'arcade Colbert. Je regardais dans l'obscurité. Personne sous l'arcade. Je sentis qu'il était impossible de demeurer là et d'avoir l'air de quelqu'un qui attend. Il y a près de l'arcade Colbert un poste de police, et des patrouilles passaient à chaque instant. Je m'enfonçai dans la rue. Je n'y trouvais personne. J'allai jusqu'à la rue Vivienne. À l'angle de la rue Vivienne, un homme était arrêté devant une affiche et cherchait à la déchirer ou à la décoller. Je m'approchai de cet homme qui me prit probablement pour un agent de police et s'enfuit à toutes jambes. Je revins sur mes pas. Vers l'arcade Colbert, et comme j'arrivais à l'endroit de la rue où on applique les affiches de spectacle, un ouvrier passa près de moi et me dit rapidement « Que fait Joseph ?» Je reconnus le formier. « Venez, me dit-il. » Nous nous mîmes en route, sans nous parler et sans avoir l'air de nous connaître, lui marchant devant moi à quelque distance. Nous allâmes d'abord à 2 adresses qu'on ne pourrait indiquer ici sans désigner des victimes aux proscripteurs. Dans ces 2 maisons, rien, aucune nouvelle. Personne n'y était venu de la part des associations. « Allons au 3e endroit, me dit le formier. » Et il m'expliqua qu'ils s'étaient donné entre eux 3 lieux de rendez-vous successifs, en cas, pour être toujours sûr de se rencontrer, si par aventure la police découvrait le premier ou même le second rendez-vous, précaution que nous prenions de notre côté, le plus possible pour nos réunions de la gauche et du comité. Nous étions dans le quartier des Halles. On s'était battu là toute la journée. Il n'y avait plus de réverbères dans les rues. Nous nous arrêtions de temps en temps et nous écoutions, afin de ne pas donner de la tête dans une patrouille. Nous enjambâmes une palissade de planches presque entièrement détruite et dont on avait probablement fait des barricades, et nous traversâmes les vastes démolitions qui encombraient à cette époque le bas des rues Montmartre et Montorgueil. Sur la pointe des hauts pignons démantelés, on voyait trembler une clarté rougeâtre, sans doute les reflets des feux de bivouac de la troupe campée aux Halles et près de Saint-Eustache. Ce reflet nous éclairait. Le formier, pourtant, faillit tomber dans un trou profond qui n'était autre chose que la cave d'une maison démolie. En sortant de ces terrains couverts de ruines, parmi lesquels on apercevait çà et là quelques arbres, restes d'anciens jardins disparus, nous atteignîmes des rues étroites, tortueuses, complètement obscures, où il était impossible de se reconnaître. Cependant, le formier y marchait, aussi à l'aise qu'en plein jour, et comme quelqu'un qui va droit à son but. Une fois, il se retourna et me dit « Tout le quartier est barricadé, et si nos amis descendent, comme je l'espère, je vous réponds qu'on y tiendra longtemps. » Tout à coup, il s'arrêta. « En voici une, » dit-il. Nous avions en effet devant nous, à 7 ou 8 pas, une barricade tout en pavé, ne dépassant pas la hauteur d'homme, et qui apparaissait dans l'ombre comme une sorte de mur en décombre. Une gorge étroite était pratiquée à l'une de ses extrémités. Nous la franchîmes. Il n'y avait personne derrière la barricade. « On s'est déjà battu ici tantôt, » me dit le formier à voix basse. Et il ajouta, après un silence, « Nous approchons. » le dépavage avait fait des trous qu'il fallait éviter. Nous enjambions et quelquefois nous sautions de pavé en pavé. Si profonde que soit l'obscurité, il y flotte toujours je ne sais quelle lueur. Tout en allant devant nous, nous aperçûmes à terre, près du trottoir, quelque chose qui ressemblait à une forme allongée. « Diable !» murmura mon guide, « nous allions marcher là-dessus. » Il tira une petite allumette bougie de sa poche et la frotta sur sa manche. L'étincelle jaillit. La clarté tomba sur une face blême qui nous regardait avec des yeux fixes. C'était un cadavre qui gisait là. C'était un vieillard. Le formier promena rapidement l'allumette de la tête aux pieds. Le mort avait presque l'attitude d'un homme en croix. Ses deux bras étaient étendus. Ses cheveux blancs, rouges aux extrémités, trempaient dans la boue. Il avait sous lui une mare de sang. Une large plaque noirâtre à son gilet marquait la place de la balle qui lui avait troué la poitrine. Une de ses bretelles était défaite. Il avait aux pieds de gros souliers lacés. Le formier lui souleva un bras et dit « Il a la clavicule cassée ». Le mouvement fit remuer la tête, et la bouche ouverte se tourna vers nous, comme si elle allait nous parler. Je regardais cette vision, j'écoutais presque. Brusquement, elle disparut. Cette figure rentra dans les ténèbres. L'allumette venait de s'éteindre. Nous nous éloignâmes en silence. Au bout d'une vingtaine de pas, le formier, comme se parlant à lui-même, dit à demi-voix « Connais pas ». Nous avancions toujours. Des caves au toit, des rez-de-chaussée aux mansardes, pas une lumière dans les maisons. Il semblait que nous étions errants dans une immense tombe. Une voix ferme, mâle, sonore, sortit subitement de cette ombre et nous cria « Qui vive ?»« Ah, ils sont là !» dit le formier. Il se mit à siffler d'une certaine façon. « Arrivez !» reprit la voix. C'était encore une barricade. Celle-ci, un peu plus haute que l'autre et séparée de la première par un intervalle d'environ 100 pas, était, autant qu'on pouvait le distinguer, bâtie avec des tonneaux pleins de pavés. On apercevait tout en haut les roues d'un camion engagé entre les tonneaux. Des planches et des poutres s'y mêlaient. On y avait ménagé une gorge plus étroite encore que la coupure de l'autre barricade. « Citoyens, dit le formier en entrant dans la barricade, combien êtes-vous ici ?» La voix qui avait crié « Qui vive ?» répondit « Nous sommes deux. C'est tout ?»« C'est tout. » Ils étaient deux, en effet. Deux hommes qui, seuls dans cette nuit, dans cette rue déserte, derrière ce tas de pavés, attendaient le choc d'un régiment. Tous deux en blouse, deux ouvriers, quelques cartouches dans leurs poches et le fusil sur l'épaule. « Allons, reprit le formier avec un accent d'impatience. Les amis ne sont pas encore arrivés. Eh bien, lui dis-je, attendons-les. » Le formier parla quelque temps à voix basse et probablement me nomma à l'un des deux défenseurs de la barricade, qui s'approcha et me salua. « Citoyen représentant, dit-il, il va faire chaud ici tout à l'heure. » « En attendant, lui répondis-je en riant, il fait froid. » Il faisait très froid, en effet. La rue, entièrement dépavée derrière la barricade, n'était plus qu'un cloaque. On y avait de l'eau jusqu'à la cheville. « Je dis qu'il va faire chaud, reprit l'ouvrier, et vous ferez bien d'aller plus loin. » Le formier lui posa la main sur l'épaule. « Camarade, il faut que nous restions ici. C'est là, à côté, dans l'ambulance, qu'est le rendez-vous. » « C'est égal, reprit l'autre ouvrier, qui était de très petite taille et qui se tenait debout sur un pavé. Le citoyen représentant ferait bien d'aller plus loin. « Je puis bien être où vous êtes, lui dis-je. » La rue était toute noire. On ne voyait rien du ciel. En dedans de la barricade, à gauche, du côté où était la coupure, on distinguait une haute cloison en planches mal jointes, à travers lesquelles s'échappait par endroits une clarté faible. Au-dessus de la cloison montait à perte de vue une maison de 6 ou 7 étages, dont le rez-de-chaussée en réparation et qu'on reprenait en sous-œuvre était fermé par ses planches. Une raie de lumière sortant d'entre les planches, tombait sur le mur en face et éclairait une vieille affiche déchirée où on lisait « Asnières, joute sur l'eau, grand bal ». « Avez-vous un autre fusil ?» demanda le formier au plus grand des deux ouvriers. « Si nous avions trois fusils, nous serions trois hommes, » répondit l'ouvrier. Le petit ajouta « Est-ce que vous croyez que c'est la bonne volonté qui manque ? Il y aurait des musiciens, mais il n'y aurait pas de clarinette. » À côté de la palissade en planches, on entrevoyait une porte étroite et basse qui avait plutôt l'air d'une porte d'échoppe que d'une porte de boutique. La boutique à laquelle appartenait cette porte était fermée hermétiquement. La porte semblait également fermée. Le formier y alla et la poussa doucement. Elle était ouverte. « Entrons, » me dit-il. J'entrai le premier, il me suivit et referma derrière moi la porte tout contre. Nous étions dans une salle basse. Vers le fond, à notre gauche, une porte entrebâillée laissait arriver le reflet d'une lumière. La salle n'était éclairée que par ce reflet. On y apercevait confusément un comptoir et une espèce de poêle peint en noir et blanc. On entendait un râlement étouffé, bref, intermittent, qui semblait venir d'une pièce voisine, du même côté que la lumière. Le formier marcha rapidement à la porte entr'ouverte, je traversai la salle à sa suite, et nous nous trouvâmes dans une sorte de vaste galetas, éclairé par une chandelle. Nous étions de l'autre côté de la cloison en planche. Il n'y avait que sept cloisons entre nous et la barricade. Ce galetas était le rez-de-chaussée en démolition. Des colonnettes de fer, peintes en rouge et scellées dans des dés de pierre, soutenaient de distance en distance les solives du plafond. Sur le devant, une énorme charpente dressée debout et marquant le milieu de la palissade de clôture, arc-boutait la grosse poutre transversale du premier étage, c'est-à-dire portait toute la maison. Il y avait dans un coin des outils de maçon, un tas de plâtras, une grande échelle double, quelques chaises de paille çà et là, pour sol, la terre humide. À côté d'une table où était posée une chandelle, parmi des fioles de pharmacie, une vieille femme et une petite fille d'environ 8 ans, la femme assise, l'enfant accroupi, un grand panier plein de vieux linge devant elle, faisait de la charpie. Le fond de la salle qui se perdait dans l'ombre était tapissé d'une litière de paille, sur laquelle étaient jetés 3 matelas. C'était de là que venait le râlement. « C'est l'ambulance, » me dit le formier. La vieille femme tourna la tête et, nous apercevant, eut un tressaillement convulsif. Puis, rassurée probablement par la blouse du formier, elle se leva et vint à nous. Le formier lui dit quelques mots à l'oreille. Elle répondit « Je n'ai vu personne ». Puis elle ajouta « Mais ce qui m'inquiète, c'est que mon mari n'est pas encore rentré. On n'a fait que tirer des coups de fusil toute la soirée. » 2 hommes gisaient sur 2 des matelas du fond. Le 3e matelas était vide et attendait. Le blessé le plus près de moi avait reçu un biscaïen dans le ventre. C'est lui qui râlait. La vieille femme approcha du matelas avec la chandelle et nous dit tout bas en montrant son poing « Si vous voyez le trou que ça a fait, nous lui avons fourré gros de ça de charpie dans le ventre. » Elle reprit « Ça n'a pas plus de 25 ans. Ça sera mort demain matin. » L'autre était plus jeune encore, il avait à peine 18 ans. « Il a une jolie redingote noire, » dit la vieille femme. « Ça doit être un étudiant. » Le jeune homme avait tout le bas du visage enveloppé de linges ensanglantés. Elle nous expliqua qu'il avait reçu une balle dans la bouche, qui lui avait fracassé la mâchoire. Il avait une fièvre ardente et nous regardait avec des yeux brillants. Il étendait de temps en temps son bras droit jusqu'à une cuvette pleine d'eau où trempait une éponge. Prenait l'éponge, l'approchait de son visage et humectait lui-même son pansement. Il me sembla que son regard se fixait sur moi d'une façon particulière. J'allais à lui, je me baissais et je lui tendis ma main qu'il prit dans les siennes. « Est-ce que vous me connaissez ? » lui demandai-je. Il me répondit oui, par un serrement de main dont je sentis l'étreinte jusqu'au cœur. Le formier me dit « Attendez-moi ici un instant, je reviens tout à l'heure. Je vais voir dans le quartier s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un fusil. » Il ajouta « En voulez-vous un aussi pour vous ?»« Non, lui dis-je, je resterai ici, sans fusil. Je n'entre qu'à moitié dans la guerre civile. Je veux bien y mourir, je ne veux pas y tuer. » Je lui demandai s'il pensait que ses amis allaient venir. Il me déclara qu'il n'y comprenait rien, que les hommes des associations devraient être arrivés déjà, qu'au lieu de deux dans la barricade, on devrait être 20, et qu'au lieu de deux barricades dans la rue, il devrait y en avoir 10, qu'il fallait qu'il se fût passé quelque chose. Il ajouta, « Au reste, je vais voir. Promettez-moi de m'attendre ici. »« Je vous le promets, lui dis-je. J'attendrai s'il le faut toute la nuit. » Il me quitta. La vieille femme était venue se rasseoir près de la petite fille qui ne semblait pas beaucoup comprendre ce qui se passait autour d'elle et qui, de temps en temps, levait sur moi de grands yeux paisibles. Toutes deux étaient pauvrement vêtues et il me sembla que l'enfant avait les pieds sans bas. « Mon homme n'est pas rentré, disait la vieille. Mon pauvre homme n'est pas rentré, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. » Avec des « Ah, mon Dieu !» à fendre le cœur. Et tout en se hâtant à sa charpie, elle pleurait. Je ne pouvais m'empêcher de songer avec angoisse à ce vieillard que nous avions vu à quelques pas de là, étendu sur le pavé. Il y avait sur la table un numéro de journal. Je le pris et je le dépliai. C'était la P. Le reste du titre était déchiré. Une main sanglante y était largement imprimée. Un blessé, en entrant, avait probablement posé la main sur la table à l'endroit où était le journal. Mes yeux tombèrent sur ces lignes. « Monsieur Victor Hugo vient de publier un appel au pillage et à l'assassinat. » C'est en ces termes que le journal de l'Élysée qualifiait la proclamation dictée par moi à Baudin et qu'on peut lire au tome premier de cette histoire. Comme je rejetais le journal sur la table, l'un des deux défenseurs de la barricade entra. C'était le petit. « Un verre d'eau, » dit-il. À côté des fioles, il y avait une carafe et un verre. Il but avidement. Il tenait à la main un morceau de pain et un cervelas dans lequel il mordait. Tout à coup, nous entendîmes plusieurs détonations successives, se suivant coup sur coup, et qui paraissaient peu éloignées. Cela ressemblait, dans le silence de cette nuit noire, au bruit d'une charretée de bois qu'on décharge sur le pavé. La voix grave et tranquille de l'autre combattant cria du dehors. « Cela commence !»« Ai-je le temps de finir mon pain ?» demanda le petit. « Oui, » dit l'autre. Le petit se tourna alors vers moi. « Citoyen représentant, » me dit-il, « voilà les feux du peloton. On attaque les barricades par là. Vrai, il faut vous en aller. » Je lui répondis. « Mais vous restez bien, vous. » Nous, nous sommes armés, reprit-il. Vous, vous ne l'êtes pas. Vous ne serez bon qu'à vous faire tuer, sans profit pour personne. Si vous aviez un fusil, je ne dis pas, mais vous n'en avez pas. Il faut vous en aller. Je ne puis, lui dis-je. J'attends quelqu'un. Il voulut poursuivre et me presser. Je lui serrai la main. Laissez-moi faire, lui dis-je. Il comprit que mon devoir était de rester, et n'insista plus. Il y eut un silence. Il se remit à mordre dans son pain. On n'entendait plus que le râle du mourant. En ce moment-là, une espèce de coup sourd et profond arriva jusqu'à nous. La vieille femme sauta sur sa chaise en murmurant « C'est le canon !»« Non, » dit le petit homme, « c'est une porte cochère qu'on ferme. » Puis il reprit « Bah, j'ai fini mon pain !» fit claquer ses deux mains l'une contre l'autre, et sortit. Cependant, les détonations continuaient et semblaient se rapprocher. Un bruit se fit dans la boutique. C'était le formier qui rentrait. Il parut au seuil de l'ambulance. Il était pâle. « Me voici, » dit-il, « je viens vous chercher. Il faut rentrer chez soi. Allons-nous-en tout de suite. » Je me levai de la chaise où j'étais assis. « Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'ils ne viendront pas ?»« Non, » répondit-il. « Personne ne viendra. C'est fini. » Alors il m'expliqua rapidement qu'il avait couru tout le quartier pour trouver un fusil, qu'il avait perdu sa peine, qu'il avait parlé à deux ou trois, qu'il fallait renoncer aux associations, qu'elle ne descendrait pas, que ce qui s'était fait dans la journée avait épouvanté, que les meilleurs étaient terrifiés, que les boulevards étaient pleins de cadavres, que la troupe avait fait des horreurs, que la barricade allait être attaquée, qu'en arrivant, il avait entendu un bruit de pas vers le carrefour, et que c'était la troupe qui venait, que nous n'avions plus rien à faire là, qu'il fallait nous en aller, que cette maison était bêtement choisie, qu'il n'y avait pas d'issue par derrière, que peut-être nous aurions déjà de la peine à sortir de la rue, et que nous n'avions que le temps. Le tout, haletant, bref, saccadé, et entrecoupé à chaque instant de cette exclamation, « Et dire qu'on n'a pas d'armes, et dire que je n'ai pas de fusil !» Comme il achevait, nous entendîmes crier de la barricade « Attention !» Et presque immédiatement un coup de fusil partit. Une violente décharge répondit au coup de fusil. Plusieurs balles frappèrent la cloison de l'ambulance, mais elles étaient trop obliques et aucune ne la perça. Nous entendîmes tomber bruyamment dans la rue plusieurs carreaux cassés. « Il n'est plus temps, » dit le formier avec calme. « La barricade est attaquée. » Il prit une chaise et s'assit. Les deux ouvriers étaient évidemment d'excellents tireurs. Deux feux de peloton assaillirent la barricade, coup sur coup. La barricade ripostait avec vivacité. Puis le feu s'éteignit. Il y eut comme un silence. « Les voilà qui arrivent à la baïonnette. Ils viennent au pas de course !» dit une voix dans la barricade. L'autre voix dit « Filons !» Un dernier coup de fusil partit, puis un choc que nous prîmes pour un avertissement ébranla nos murailles de planches. C'était en réalité un des ouvriers qui avait jeté son fusil en s'en allant. Le fusil en tombant avait heurté la cloison de l'ambulance. Nous entendîmes le pas rapide des deux combattants qui s'éloignaient. Presque au même instant, un tumulte de voix et de crosses de fusil cognant le pavé emplit la barricade. « C'est fait, » dit le formier, et il souffla la chandelle. Au silence qui enveloppait cette rue le moment d'auparavant avait succédé une sorte de vacarme sinistre. Les soldats frappaient à coups de crosse aux portes des maisons. Ce fut par miracle que la porte de la boutique leur échappa. S'ils l'eussent touchée du coude seulement, ils eussent vu qu'elle n'était pas fermée et fussent entrés. Une voix qui devait être la voix d'un officier criait « Éclairez les fenêtres !» Les soldats juraient. Nous les entendions dire « Où sont-ils, ces gredins de rouge ? Fouillons les maisons !» L'ambulance était plongée dans l'obscurité. On n'y prononçait pas un mot. On n'y entendait pas un souffle. Le mourant lui-même, comme s'il eût eu le sentiment du danger, avait cessé de râler. Je sentais la petite fille qui se serrait contre mes jambes. Un soldat frappait sur les tonneaux et disait en riant « Voilà pour faire du feu cette nuit !» Un autre reprenait « Où sont-ils passés ? Ils étaient au moins 30. Visitons les maisons !» Nous en entendîmes un qui faisait des objections. « Bah, qu'est-ce que tu veux faire dans une nuit comme ça ? Entrer chez le bourgeois ? Il y a des terrains par là-bas. Ils se sont en sauvés. C'est égal, répétaient les autres. Fouillons les maisons. » En ce moment, un coup de fusil partit du fond de la rue. Ce coup de fusil nous sauva. C'était probablement, en effet, un des deux ouvriers qui l'avait tiré pour nous dégager. « Ça vient de là-bas !» crièrent les soldats. « Ils sont là-bas !» Et prenant tous leurs volets à la fois vers le point d'où le coup de fusil était parti, ils quittèrent la barricade et s'enfoncèrent dans la rue en courant. Nous nous levâmes, le formier et moi. « Ils n'y sont plus, » me dit-il tout bas. « Vite, allons-nous-en. »« Mais cette pauvre femme, » dis-je, « est-ce que nous allons la laisser là ?»« Oh !» s'écria-t-elle, « n'ayez pas peur, je n'ai rien à craindre. Moi, je suis une ambulance, j'ai des blessés. Je vais même rallumer ma chandelle quand vous serez partis. Mais c'est mon pauvre mari qui n'est pas rentré. » Nous traversâmes la boutique sur la pointe des pieds. Le formier entr'ouvrit doucement la porte et jeta un coup d'œil dans la rue. Quelques habitants avaient obéi à l'ordre d'illuminer les fenêtres, et 4 ou 5 chandelles allumées çà et là tremblaient au vent sur le rebord des croisées. La rue était un peu éclairée. « Plus personne, » me dit le formier, « mais dépêchons, car ils vont probablement revenir. » Nous sortîmes. La vieille femme poussa la porte derrière nous, et nous nous trouvâmes dans la rue. Nous franchîmes la barricade et nous nous en éloignâmes à grands pas. Nous passâmes près du vieillard mort. Il était toujours là, gisant sur le pavé, vaguement éclairé par la lueur incertaine des fenêtres. Il semblait dormir. Comme nous atteignions la seconde barricade, nous entendîmes derrière nous les soldats qui revenaient. Nous parvîmes à rentrer dans les terrains en démolition. Là, nous étions en sûreté. Un bruit de mousqueterie arrivait toujours jusqu'à nous. Le formier disait « On se bat du côté de la rue de Cléry ». Sortis des démolitions, nous fîmes le tour des halles, non sans péril de tomber dans des patrouilles, par une foule de circuits et de petites rues en petites rues. Nous gagnâmes la rue Saint-Honoré. Au coin de la rue de l'Arbre Sec, nous nous séparâmes, le formier et moi, car, en effet, me dit-il, deux courent plus de danger qu'un, et je regagnai mon numéro 19 de la rue Richelieu. En traversant la rue des Bourdonnais, nous avions aperçu le bivouac de la place Saint-Eustache. Les troupes parties pour l'attaque n'y étaient pas encore rentrées. Quelques compagnies seulement le gardaient. On entendait des éclats de rire. Les soldats se chauffaient à de larges feux allumés çà et là. Dans le feu qui était le plus près de nous, on distinguait au milieu du brasier des roues de voitures qui avaient servi aux barricades. De quelques-unes, il ne restait qu'un grand cercle de fer rouge.